Le cri du cœur parmi les hommes de toutes les nations réclame la paix, la sécurité et la bonne volonté. Cet ardent désir d'avoir une vie paisible et heureuse augmente à mesure que les efforts humains pour résoudre les problèmes du monde continuent à être sabotés par l'égoïsme d'autres hommes. Le monde aura-t-il jamais la paix? Nous disons oui, et nous en trouverons l'assurance renouvelée dans la suite de nos études de la Bible. Dans cette émission, nous examinerons le livre d'Agée, le 37e livre de l'Ancien Testament. Ces programmes d'études de la Bible sont donnés internationalement et vous sont présentés par l'Association des étudiants de la Bible qui publie la revue Aurore, en coopération avec nos amis de partout. À la fin de cette émission, je vous dirai comment ces entretiens peuvent devenir encore plus précieux.
Merci Thomas. Agée, dont nous examinerons maintenant la prophétie, fut prophète en Israël après le retour de la captivité à Babylone. Quelle est l'affirmation la plus importante trouvée dans la prophétie d'Agée?
Eh bien, je remarque au chapitre 2, verset 7, qu'Agée cite la parole du Seigneur. « J'ébranlerai toutes les nations, et le désir de toutes les nations arrivera. » Il me paraît très rassurant que le Seigneur dise qu'enfin le désir de toutes les nations arrivera. Ne trouves-tu pas?
Oui, Thomas. Cette assurance répond pleinement à tes remarques du début concernant le désir des gens de mener une vie heureuse et paisible. Le prophète Agée donne la confirmation de cette promesse. Mais peut-être serait-il bon que nous examinions ce livre avec attention.
Eh bien, comme nous l'avons dit, comme tu l'as dit, Pierre, Agée fut prophète en Israël après son retour de captivité à Babylone. Le roi Cyrus des Mèdes et des Perses décréta leur libération et les autorisa à reconstruire le temple de Jérusalem. Un juif nommé Zorobabel fut nommé gouverneur de Judée et il commença avec enthousiasme le travail de reconstruction du temple. Mais au moment où les fondations furent faites, une opposition se manifesta contre le projet. Le gouverneur apparemment perdit courage et la reconstruction cessa. Autant qu'il m'en souvient.
C'est juste. Et la prophétie d'Agée se rapporte surtout à ces circonstances locales, en particulier au retard apporté à la reconstruction du temple. Il réprimande le peuple, surtout les chefs, qui construisent de belles demeures pour eux, mais négligent la maison du Seigneur.
Pierre, la Bible n'indique-t-elle pas que le temple de Jérusalem était le type ou l'illustration d'un temple encore plus grand, selon les plans et arrangements du Seigneur?
Oui. L'un des écrivains du Nouveau Testament parle de ce temple qui n'est pas fait par la main des hommes. Le temple du Seigneur à Jérusalem était le lieu où le peuple, par le ministère de ses chefs religieux, s'adressait au Seigneur et recevait ses bénédictions. Ceci illustre la promesse du Seigneur que la classe qui serait associée au Messie dans son royaume accomplirait la promesse faite à Abraham que par sa postérité toutes les familles de la terre seraient bénies.
Autrement dit, la postérité promise à Abraham, qui est le Christ, sera le vrai temple du Seigneur, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes de toutes les nations.
Oui, et dans cette illustration, le Messie de la promesse sera le grand médiateur entre Dieu et les hommes. Et alors il gravera la loi de Dieu dans le cœur de tous ceux qui l'accepteront et qui obéiront aux lois du nouveau royaume.
Pierre, il s'agit du nouveau temple du Seigneur dans Agée, chapitre 2, verset 7, où il est dit: « Je remplirai de gloire cette maison. »
Je le crois. Mais tu remarqueras, au début de ce texte, que la promesse du Seigneur ne s'accomplira qu'après un ébranlement général de la société et des nations, qui traverseront une période d'affliction par laquelle cet âge touchera à sa fin. Il serait bon, Thomas, de lire ce texte.
Je le crois aussi. Il est dit « J'ébranlerai toutes les nations, les cieux et la terre, la mer et les espaces arides, et le désir de toutes les nations arrivera. » Tu sais, Pierre, le fait que le désir de toutes les nations arrivera est certainement une belle promesse de Dieu. Que veut dire le Seigneur quand il parle d'ébranler les cieux et la terre, la mer et les espaces arides?
Cela ne peut concerner littéralement les cieux et la terre. S'il en était ainsi, le désir des nations ne pourrait se réaliser, car toute la race humaine serait détruite. Ceci, Thomas, est un autre exemple du langage figuré de la Bible. Les cieux et la terre sont les aspects spirituels et matériels de l'ordre social actuel, tandis que la mer représente les masses agitées mécontentes. Les espaces arides sembleraient être le symbole des millions d'êtres humains non privilégiés. Ainsi, la prophétie indique que toutes les classes du peuple, ses arrangements gouvernementaux seraient ébranlés avant que le désir de toutes les nations arrive.
Pierre, cette prophétie présente une image très frappante de l'ébranlement des cieux et de la terre, ce qui est, comme tu le dis, une figure de ce qui se passera dans la société humaine. Mais comment cela arrivera-t-il? La Bible donne-t-elle quelques détails à ce sujet?
Oui, dans les versets 22 et 23 de ce même chapitre de la prophétie d'Agée, tu trouveras une réponse à ta question. Dans ces versets, le Seigneur parle à nouveau de l'ébranlement et nous dit comment il aura lieu.
Je veux lire ce qui est écrit. « J'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes, des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et ceux qui les montent seront abattus, les uns par l'épée des autres. » Pierre, est-ce là la méthode par laquelle cet ébranlement symbolique sera accompli?
C'est ce que dit le Seigneur. L'ébranlement des cieux et de la terre n'est pas le choc de monde et de planète physique, mais une lutte au sein de la société humaine par laquelle les éléments divers et les nations seront vaincus, chacune par l'épée de l'autre.
Cela le rend certainement compréhensible. Pierre, que faut-il comprendre par païen dont il est fait mention dans la prophétie? Le Seigneur dit « Je détruirai la force des royaumes païens ». Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce une allusion aux races asiatiques?
Les races asiatiques sont certainement comprises, mais dans la Bible, le mot « païen » s'applique à toutes les nations non israélites. C'est la traduction d'un mot hébreu voulant dire « étranger au Seigneur ». Au temps de la Bible, la nation juive était la seule reconnue de Dieu lui appartenant. Aussi, le mot « païen » fut appliqué à tous les autres peuples.
Merci pour cette explication. Beaucoup se sont demandé ce que cela voulait dire. Pierre, je remarque que le Seigneur dit aussi « Je renverserai le trône des royaumes. » Qu'est-ce que le trône des royaumes?
Cela pourrait très bien faire allusion à la domination de Satan dans les affaires des hommes. Dans notre étude des premiers chapitres de la Genèse, nous avons vu que le diable joua un rôle très important dans la situation de la race humaine, qui l'amena ainsi sous son contrôle. Il a usurpé l'autorité qu'il exerce sur l'humanité, et de sa position invisible, il a exercé son influence et a continué à tromper les gens, et autant qu'il fut possible, les a détournés de Dieu.
Cela veut-il dire que lorsque le désir de toutes les nations viendra, l'empire de Satan sera détruit et son pouvoir enlevé?
Thomas, tel est le témoignage de toute la Bible.
C'est sûrement une perspective merveilleuse. Mais Pierre, que comprend-on par la promesse de Dieu que le désir de toutes les nations arrivera? Quel est ce désir de toutes les nations?
Thomas, cela ne veut pas dire que, par l'entremise du royaume de Christ, Dieu satisfera tous les désirs mesquins et égoïstes des hommes. Les hommes et les nations de la terre d'aujourd'hui ont des notions si contradictoires de ce qu'ils voudraient qu'il est impossible que leurs désirs soient tous satisfaits.
Autrement dit, ce seront les désirs salutaires et non égoïstes qui seront satisfaits.
Oui, Thomas. Cependant, la pensée véritable de cette promesse, c'est que le résultat de l'ébranlement par lequel ils passent maintenant, les hommes se retourneront vers le Seigneur, et leur désir sera de se vouer à la gloire de sa cause.
Ce qui, naturellement, est une pensée bien différente.
Pas tellement différente, Thomas, car après tout, le résultat final sera le même. Quand les nations manifesteront leur désir de se tourner vers le Seigneur et d'obéir aux lois du royaume de Christ, ils se trouveront dans l'attitude voulue du cœur et de l'esprit, pour recevoir toutes les bénédictions que le nouveau gouvernement de la terre leur apportera. En se tournant vers le Seigneur, leurs désirs seront à l'unisson avec les principes de justice, et tous leurs désirs seront accomplis glorieusement et abondamment.
Et afin de pouvoir faire connaître ce que seront ces désirs du peuple, il est bon de lire les prophéties concernant les bénédictions que le royaume du Seigneur dispensera à l'humanité. Tu as parlé des désirs contradictoires des gens aujourd'hui. Ceux que j'ai mentionnés au début ont certainement l'accord général. Tout le monde veut la paix, la sécurité et la bonne volonté.
C'est vrai. Et jusqu'ici, nous avons trouvé dans l'étude des livres prophétiques de l'Ancien Testament de nombreuses promesses de Dieu qui nous assurent que les désirs de paix et de sécurité seront satisfaits. Il n'y aura pas de fin à son gouvernement. Et la paix sera grande, a écrit le prophète Ésaïe au sujet du royaume du Messie.
Et le prophète Michée, parlant de la transformation figurée d'épée en soc de charrue, nous donne aussi une assurance de paix entre les nations. La pensée de chaque homme demeurant sous sa vigne et sous son figuier suggère la sécurité et l'abondance, me semble-t-il.
Et de plus, les gens désirent la santé et la vie. Et Dieu a promis que la maladie et la mort seraient détruites. Sûrement, le désir de toutes les nations arrivera. Thomas, veux-tu parler à nos amis du livre « Notre temps dans la prophétie » ?
Je le ferai volontiers, Pierre. Ami, je sais que par la lecture de l'article « Notre temps dans la prophétie », nous avons simplement effleuré les prophéties de la Bible qui parlent du temps où nous vivons. Notre foi sera fortifiée et notre horizon sur l'avenir sera éclairé par la lecture de ce livre plein d'espoir et d'éclaircissement. Aussi, demandez-en un exemplaire. C'est le 4e article d'une série qui passe en revue la Bible entière. Notre temps dans la prophétie examine les 6 derniers livres de l'Ancien Testament. Le prophète Nahum fait prévoir les moyens modernes de voyage rapide. Le prophète Sophonie décrit les efforts inutiles de l'homme pour trouver une solution au problème de la race humaine. Et il nous assure aussi qu'il ne sera pas permis à l'homme de se détruire. Le prophète Zacharie prédit le rétablissement du peuple juif en Palestine et de sa signification dans le plan divin. Tous ces faits et bien d'autres sont exposés dans le livre « Notre temps dans la prophétie ». Demandez un exemplaire gratuit. Demandez le petit livre « Prophétie ». Demandez simplement « Prophétie ». Ce petit livre vous sera envoyé gratuitement et franco de port. Cette étude de la Bible vous a été présentée par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore en coopération avec les groupes d'études de la Bible et leurs amis de partout. Nous serons avec vous de nouveau la semaine prochaine. Dites-le à vos amis, s'il vous plaît, et que Dieu vous bénisse tous.